now it's time for
L'Atelier Podcast!
Guitar Center Stage.
Eh oui! Mesdames et messieurs, ils sont de retour. Bienvenue dans le premier épisode du Tailgate Podcast, édition 2025-2026. Vous me reconnaissez, mon nom est Nicolas Verroux et encore une fois cette année, je serai à la barre avec vous du Tailgate Podcast. Vous avez été nombreux à nous réclamer ce premier épisode de la saison dans les dernières semaines, même voire les derniers mois. J'ai entendu parler de mon podcast et de notre podcast, en fait, très souvent au centre de deck à Saint-Augustin cet été. Donc là, voici la fameuse première épisode. Et mesdames et messieurs, vous serez gâtés pour la première semaine d'activité du Tailgate cette année. Alors, au moment d'enregistrer le présent épisode, nous sommes le 27 août, mercredi. Et ce sera un épisode aujourd'hui consacré seulement à la NCAA, donc la saison qui est déjà entamée pour certaines équipes et qui commence vraiment de plein fouet demain soir, jeudi le 28, avec plusieurs matchs. Donc aujourd'hui, ce sera un épisode consacré 100% à college football et vous aurez également un autre épisode qui vous sera offert lundi le 1er septembre pour bien célébrer la fête du travail avec une description complète de la saison à venir dans la NFL. Vous aurez donc compris, vous m'avez entendu parler de college football depuis le début de l'épisode. Ça me met à vous présenter mes deux invités pour aujourd'hui. Quand vous entendez college football sur le Tailgate Podcast, vous pensez nécessairement à mon premier invité, l'expert depuis plusieurs saisons, Monsieur Étienne Crotto.
Yo, yo, yo.
Yo tout.
Yo, yo.
Très heureux de te revoir sur le Tailgate Podcast cette année.
Si, bien content d'entamer une deuxième saison de suite à la barre de la NCAA dans le Tailgate Podcast.
Très heureux d'avoir ton expertise et très apprécié par les fans. Et évidemment, il fallait compléter le trio aujourd'hui avec une des grandes sommités dans le monde du sport au Québec. Je nomme Gabriel Le Cerveau. Qui est de retour sur le podcast cette année. Il a très, très apprécié ses passages l'année dernière et nous a mentionné également plusieurs fois durant la saison morte de vouloir avoir une forte préférence à se pointer encore une fois le bout du nez sur le terrier de podcast. Alors, également, petite annonce en primeur, avant de commencer l'épisode de plein fouet, pour ceux et celles qui sont inscrits à la Ligue Fantasy du Tailgate Podcast, j'ai le plaisir d'annoncer que le reveal pour la loterie pour le repêchage sera annoncé en primeur sur l'épisode de lundi sur le Tailgate Podcast. Donc, soyez à l'affût. Vous aurez vos résultats et vous pourrez commencer à manquer par la suite après l'épisode de lundi. Alors, college football, ça commence demain plein fouet. Avant de continuer et de parler de la saison à venir, je pense que ce serait bien de faire un petit recap de ce qui s'est passé en fin de saison l'an dernier. Comme vous savez, c'était la première année qu'on avait des playoffs à 12 équipes l'année passée. Et puis, personnellement, je trouve que ça allait faire un spectacle à la hauteur des attentes, même peut-être plus. C'était vraiment intéressant d'avoir des bons match-up, surtout dans le temps des fêtes. Mm-hmm. C'était super intéressant à ce niveau-là. Fait que Crotz, on va commencer à peut-être faire un petit recap. Qui était in l'an passé? Puis je sais que par rapport à cette saison, ça a changé un petit peu au niveau des règlements pour ce qui s'en vient au niveau des college football playoffs.
Ouais, exactement. Fait que l'an dernier, on se rappelle de la manière que ça fonctionnait. On avait une formule à 12 équipes, donc ça va pas changer cette année. On parle encore de 12 équipes qui vont rentrer en playoff. L'an dernier, ce qu'on avait, les 4 équipes qui avaient un bye, c'était les 4 meilleurs champions de conférence. Donc, ce qui faisait qu'on avait Oregon qui avait gagné le Big Ten, on avait Georgia qui avait gagné le SEC, on avait Boise State qui avait gagné le Mountain West, puis on avait Arizona State qui avait gagné le Big 12. Puis finalement, il y avait les 5 champions comme on va revoir cette saison. Puis la dernière équipe qui était in, c'était Clemson qui avait gagné le ACC. La petite particularité qu'il va y avoir cette saison, c'est que le top 4 qui va avoir un bye, ce ne sera pas nécessairement les 4 meilleurs champions de conférence. Ça va être les 4 meilleures équipes qui vont avoir été décidées par le comité. Donc, si on regarde avec la formule de l'an dernier, là, si on avait appliqué cette formule-là, on aurait eu Oregon, on aurait eu Georgia, on aurait eu Texas, puis on aurait eu Penn State. Donc, c'est la petite particularité qu'on va retrouver cette saison, mais en ce qui concerne les 12 équipes, c'est la même chose qui revient. Puis ça, les 5 meilleurs champions de conférence vont encore revenir quand même en playoff cette saison. L'an dernier, on avait eu des équipes qui étaient rentrées qu'on n'attendait pas nécessairement. On fait juste penser à Indiana là, qui avait quand même une très très bonne équipe, qui eux ont réussi à sneak in dans le Big Ten. Sinon, si je regarde un Tennessee aussi, on avait quand même des bonnes attentes avec Nico Yamelava, qui était carrière à l'époque à Tennessee, qui vient d'ailleurs de transférer à UCLA. Mais c'est une équipe qu'on s'attendait pas à voir rentrer dans le top 12, puis finalement qui avait sneak in. Sinon, si je regarde des équipes un peu surprises qui étaient là, ben, c'est pas vraiment des surprises, mais parce que ça prenait des champions de conférence, mais Arizona State puis Boise, évidemment, c'était des équipes. Puis tu sais, si on regarde dans le Big 12, il y en avait beaucoup qui pensaient qu'avec le duo Sanders-Hunters, Colorado aurait pu sneak in, mais finalement, Arizona State avec Sam Levitt puis Cam Scalabou avait rentré. Mais ouais, l'an passé, ça avait été le fun parce que je pense qu'on en avait parlé, mais on avait pu découvrir certains joueurs en playoff comme Cam qui avait quasiment battu Texas à lui tout seul. Mais non, fait que je pense que c'est bien qu'on revienne encore avec la formule de 12 équipes. Mais c'est sûr, il y a des petits changements cette saison qui vont avoir lieu. Là.
Évidemment, l'année dernière, Ohio State qui était rentré comme 8e, je le mets en guillemets. Là,
ouais.
Mais c'est fun de voir justement, ça fait un peu un vibe de tournoi, un peu comme, mettons, le March Madness.
Ouais,
que, tu peux partir sur un run à un moment donné, puis même si tu as peu la Greatest of Seasons, ben, tu peux arriver en playoff, puis faire un run justement pour un championship.
Ouais,
puis Ohio State avait perdu, si je ne me trompe pas,
contre Michigan. Ça avait été leur seule défaite de l'année. Puis cette défaite-là les avait amenés 8e. Puis ce que ça avait fait, c'est qu'il n'y avait même pas eu un title shot pour le Big Ten parce que Oregon et Penn State avaient des meilleures fiches. Mais cette année, avec la nouvelle formule, un Ohio State aurait probablement été classé plus haut qu'un Boise ou un Arizona State. Fait que encore là, je pense que ça va avantager justement des équipes qui vont peut-être avoir connu une défaite ou deux dans la saison, mais qui essentiellement vont être des meilleures équipes sur le terrain. Tu sais, l'an passé, on n'a pas eu le match-up entre Ohio State ou Boise, mais je suis convaincu que ça aurait été une boucherie. Là.
C'est sûr.
Ouais.
C'est sûr. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne m'en rappelle plus, malheureusement. Plusieurs joueurs, évidemment, qu'on a vus également en playoff l'an passé, qui vont être de retour cette année.
Ouais.
On pense notamment à Jeremiah Smith à Ohio State. L'année passée, Alabama avait pas fait de bruit, là. Il n'était même pas été en playoff, mais on a aussi Ryan Williams qui est un joueur très excitant. Ça m'amène à parler peut-être. Là, on a parlé du top 12 de l'an passé. Je pense qu'on va enchaîner directement avec nos prédictions pour cette année. Puis on a galé un petit peu de data d'experts de ESPN qu'on va comparer aujourd'hui avec le top 12 qui nous a été concocté par M. Krutz. Puis évidemment, on va faire le parallèle entre des joueurs aussi qui vont être à regarder pour la présente saison. Puis des équipes. L'objectif du podcast aujourd'hui aussi, c'est vraiment de continuer à éduquer les auditeurs sur l'NC Football pour que vous puissiez ouvrir votre TV le samedi et savoir quoi écouter parmi toutes les games qu'il y a à TV. Des fois, c'est un peu mêlant. Quels joueurs vous devez regarder qui pourraient être potentiellement des joueurs de vos équipes préférées NFL de l'an prochain. Alors, on va commencer ça avec les prédictions, les meilleures équipes pour cette année, avec le top 5, je pense qu'on va comme un peu en discuter, parce qu'il y a des ressemblances là, quand même. Là. Puis, U est notre data master aujourd'hui, on va comparer avec ESPN et Krutz, puis après ça, on va discuter de ce qui se passe. Mais personnellement, il y a quelques équipes que je revois pas mal souvent, puis on a parlé de lui dans le podcast l'an passé. S'il déclare au draft cette année, il aurait potentiellement pour être numéro 1, je pense qu'on pourrait commencer à parler de Texas. Pour commencer.
Ouais, ok. Moi, Texas, c'est pas l'équipe que j'ai 1. Mais oui, Texas, qui risque d'être une très grosse équipe encore. Arch Manning, la première saison, ça va être de savoir. Les équipes vont commencer forcément à avoir du tape sur ce gars-là. Est-ce qu'il va être capable de s'adapter au fait que les équipes vont mieux le connaître? Parce que depuis qu'il est à Texas, ça fait 2 ans, il y a seulement 3 départs. Donc, mais on l'a quand même vu l'an passé, même quand il startait pas les games, il rentrait des fois pour des jeux. Fait que Steve Sarkisian, on connaît, c'est un mastermind en attaque. Donc je serais pas surpris que cette année, ils vont le faire énormément courir. On sait que par rapport à ses ongles, qui est un petit peu plus athlétique. Donc je m'attends quand même à une grosse saison d'Arch Manning. Puis sinon, c'est sûr qu'il a perdu deux de ses meilleurs receveurs, Isaiah Bond puis Matthew Golden. Ouais. Mais son running back numéro un, Quintrevion Jenkins, revient cette année. Donc je pense qu'il va avoir un petit peu de stabilité dans le jeu au sol à Texas. Là.
Yes. Sinon, dans le top 5, on a-tu d'autres équipes qui sont pas mal de retour tout le temps? Hugh, t'aurais-tu une équipe que tu voudrais qu'on, qu'on discute?
Avec mon data, j'avais déterminé le consensus, puis deux, ils sortaient Penn State.
Penn State,
j'ai Penn State deuxième aussi. Penn State, ben encore là, deux gros joueurs qui viennent de partir en Abdul Carter et Tyler Warren. Ben le corps ailleurs reste le même.
Ouais, ça c'est l'histoire pas mal. Là, c'est pourquoi ils ont beaucoup d'espoir cette année, justement avec le retour de Drew Aller.
Ouais. Puis moi, ma plus grosse question pour Penn State, c'est est-ce que James Franklin va être capable d'enfin porter cette équipe-là? On sait que dans les dernières années, ils ont souvent eu des bonnes équipes, mais ils ont souvent échoué à dernière seconde. Donc, j'ai hâte de voir Nicholas Singleton, leur running back, revient encore cette année. Donc, il y a une stabilité aussi de ce côté-là. Mais le plus gros questionnement pour moi, c'est de savoir si James Franklin va être capable de les porter à un autre niveau. Parce que l'an dernier, il était supposé de battre Notre Dame en demi-finale. Mais Notre Dame ont réussi à Marcus Freeman a réussi à outcoacher James Franklin.
C'est donc, vraiment ça qui a été... ouais. Puis on avait dû... Il y avait du gros QB play de l'année passée de leur carrière, Notre Dame, en playoff, justement, un gars qui catch on fire un peu.
Ouais. Pas Ryan Leonard, mais, ça c'est le joueur.
Ben, c'est ça que j'allais dire aussi.
Leonard Williams, donc. Pas Leonard Williams.
Ryan Leonard.
Riley Leonard. Donc, ouais, il avait piqué au bon moment parce que quand il était à Duke, c'était un carrière qui était assez average, hein, malgré une grosse victoire contre Clemson il y a 2 ou 3 ans, mais. L'an passé, il a piqué au bon moment. Puis c'est une des belles histoires, justement, des playoffs à 12 équipes. C'est que tu as des outsiders qui vont aller gagner des games. Puis Notre Dame avait battu en quart de finale le numéro 2 Georgia avant de battre le numéro 6 Penn State. Fait que.
What a run! Les autres, il n'y avait aucun bail. Pogné Indiana au début. Ouais. Indiana avait été invaincu longtemps l'an passé. Ouais. Mais quand ils sont arrivés en playoff, ils ont un peu pogné. On peut pogner une different reality là, que je pourrais, mais tu sais, what a run de Notre Dame l'a passé. Vraiment. Mm. Puis Notre Dame, mettons cette année, est-ce qu'il est quelque part dans ton top 12, toi?
Ouais, j'ai Notre Dame 6e. Ça va être intéressant de voir avec la perte de Riley Leonard. Un nouveau carrière cette année, CJ Carr, qui jouait à USC, si je me trompe pas, si quelqu'un peut me chercher ça. Je sais que c'est un gars qui vient de transférer, là, mais donc un nouveau carrière de ce côté-là. Jeremiah Love, leur running back, qui a terminé dans les meilleurs l'an passé de la NCAA, revient, devra être probablement le Ashton Gentry de 2025.
Ok, donc,
ouais. Puis défensivement, les défenses de Marcus Freeman, c'est toujours des bonnes défenses. Un gars qu'on pourrait surveiller, là, un Québécois, probablement le meilleur Québécois qui joue au sud de la frontière, Armel Moukam. Cette année, tu devrais avoir plus de rep dans la défense de Notre Dame. Donc, ça, c'est un gars que j'attends. Puis, que, en tant que Québécois, là, on va pouvoir regarder.
Puis, quelle position
C'est un D-tackle.
Avec un gros bonhomme.
Ouais, c'est ça. Mais là, ça fait 3 ans qu'il joue dans le système de. Ben, il a redshirt sa première année. L'an passé, il a joué un petit peu. Puis là, cette année, il devrait avoir un plus gros rôle. Là.
Cool. Ouais. Fait que ça va être à regarder. Fait que rappelez-vous du nom si vous avez des games de Notre Dame à regarder cette saison. Au niveau du consensus, toi, Notre Dame, ça se trouvait...
Ça se trouvait 6.
OK. T'as marre de mon crotch.
Ouais.
On va le perdre pour ESPN bientôt, je pense pas. On y va avec consensus numéro 3 maintenant. Je lance ça.
Clemson.
Je sais que autant moi que toi, Crotz, on aime pas Clemson cette saison.
Ouais, moi j'ai les Tigers premiers cette saison.
Dans la nation.
Un facteur qui explique ça, évidemment l'alignement, qu'on va revenir dans un petit instant, mais un autre facteur, je pense que c'est la force de la conférence. Donc je m'attends à ce que Clemson, à moins d'une débâcle cette semaine contre LSU, on pourra en reparler tantôt, termine parfait. Donc, ça, évidemment, que même si tu ne joues pas dans la plus grosse conférence, si tu termines la saison 13-0, tu vas être premier parce que je pense pas qu'il y a une équipe du Big Ten ou du SEC qui va terminer 13-0. Ouais, donc, à ce moment-là, pourrait les faire terminer premier. Si on vient à l'alignement de Clemson, pour moi, je pense que c'est la meilleure. Je pense que c'est le meilleur alignement dans l'NCAA cette saison. Évidemment, Kate Klubnik qui revient pour une troisième année. Carrière l'an passé qui a connu 3600 verges par la passe, 36 passes de tuer, 6 interceptions. On perd le running back 1 de l'an dernier, Phil Maffa, qui est rendu dans la NFL, mais sinon ces trois premiers receveurs reviennent, donc Antonio Williams, Brett Wesco Jr. puis TJ Moore, trois gars qui ont fait plus de 600 verges l'an passé qui reviennent. Puis défensivement, TJ Parker qui va être un choix de top 3 cette année, Phil Wood, le defensive tackle, qui revient encore cette année, qui devrait être un choix peut-être top 15 NFL, donc sont pas mal loadés partout, là, si je peux dire. Là.
Ça fait qu'ils vont être vraiment cool à regarder. Puis comme tu dis dans les CC, justement, on est au championship game, je suis prêt.
Probablement Miami, si tout se passe bien. Peut-être un bounce back season de Florida State.
SMU, on en pense quoi? Dans le passé, il était au championship game l'an passé.
Ouais, j'aime beaucoup Kevin Jennings qui revient aussi, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont partis dans la NFL justement à cause de leur grosse saison. Fait que SMU, peut-être un petit peu moins. Mais je pense que ça va vraiment se concentrer. Là. Ça risque fortement d'être Clemson, soit contre Miami, soit FSU, s'ils réussissent à bounce back.
Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je sais que tu me voles un peu les mots de la bouche, là, mais j'allais dire FSU, on y pense-tu à une bounce back season? L'an passé, ça avait été désastreux. Ouais, là, leur fan était en
FSU, leur carrière DJ Yagoulele est parti dans NFL. Donc, ils sont allés chercher un carrière sur le Transfer Portal. Tom Castellanos, qui jouait avant à Boston College. Puis, c'est un peu un genre de running back quarterback. Là. Donc, très bon avec ses jambes. Mais par la passe, ça reste encore à voir. Mais je pense définitivement que c'est un upgrade par rapport à ce qu'il y avait l'an dernier.
OK. Ouais. C'est bon à savoir. Fait que là, on a parlé de Texas, on a parlé de Penn State, on a parlé de Clemson. Est-ce que dans le top 3, consensus, il y a une équipe que j'ai pas parlé encore?
Non, moi, c'est ce que j'ai, le top 3. J'ai Clemson premier, Penn State deuxième, puis Texas troisième, tous en étant champion de conférence.
Excellent.
Donc, Clemson devrait gagner le ACC, Penn State le Big Ten, puis Texas le SEC.
Alright. 4, consensus U.
En préparant l'émission, je regardais avec Cross, on a fait une petite comparaison vite, puis le top 5, ça ressemble pas mal tout le temps.
Ouais, c'est vraiment on s'y attendait un peu.
4, j'ai Ohio.
Ouais, j'ai Ohio State aussi.
C'est sûr que là, on en a parlé, puis on va en reparler, puis on va vous en reparler dans le podcast cette année. J'ai l'impression que ça va être un peu peut-être l'Ashton GNT de l'an passé, qu'à chaque semaine, on n'avait pas le choix dans le clin d'œil, essayer d'au moins mentionner son statline, parce que c'est dégueulasse. J'ai vraiment l'impression que ça va être la même chose avec Jeremiah Smith cette année.
Jeremiah Smith qui vient de souffler ses 19e bougies. Freshman l'an dernier qui a connu une saison de, je pense c'est quoi, c'est 1200 verges. Il est hallucinant.
15 touchdowns. 15 touchdowns.
Il est hallucinant. Ça va être probablement cette année le meilleur joueur NCAA. Pas nécessairement celui qui va gagner l'Heisman parce qu'on sait qu'il est un peu au même titre que le MVP dans la NFL, c'est souvent les carrières, mais... Ouais. En termes de talent brut, à 19 ans, c'est le meilleur joueur de la NCAA. Puis, défensivement, on a le meilleur joueur défensif de la NCAA en Caleb Downs, le safety. Fait que juste avec ces deux joueurs-là, t'as du star power des deux bords du ballon. Mon point d'interrogation, j'en ai deux. Le premier, Ryan Day, mais en même temps, il a gagné le championnat national. Fait que est-ce que c'est un si gros point d'interrogation? Je sais pas. Ça va être de voir s'il va être capable.
Suite à la défaite à Michigan, ça fait une couple d'années qu'il est sur le hot seat un peu à Ohio State.
S'il va être capable de battre ses démons en battant Michigan cette année. Puis mon deuxième point d'interrogation, c'est Julian Saying, celui qui vient d'être nommé carrière 1 à Ohio State. C'est un vrai freshman. C'est un true freshman. L'an passé, il était redshirt. Donc, sa première année, j'ai hâte de voir. Peut-être, je pense qu'en début de saison, il risque d'être moins bon que ce que Will Howard a été l'an dernier, mais peut-être qu'au courant de la saison, là, on devrait être capable de... Je pense qu'il y a un peu plus de star facteur que Will Howard en avait.
Plus un game changer.
Ouais, c'est peut-être. Ça. Fait que, mais peut-être qu'en début de saison, ça va être difficile pour eux. Puis on va en parler tantôt, mais la première semaine, c'est un vrai défi en partant.
Et ouais, ça, là, on va parler de l'horreur de la première semaine, mais leur game, là,
ouais.
Samedi, ça va brasser. On est rendu top 5, je crois.
5, Georgia.
Georgia.
J'ai Georgia un petit peu plus loin, moi. J'ai Louisiana State University.
Ouais, c'est poised to be a big year. Puis c'est là que je vais faire le clin d'œil pour ceux qui ont écouté la série SEC sur college, sur Netflix, ouais, sur le college football, là, qui est une nouvelle série qui est sortie pour ceux qui ne savent pas, qui suivent plusieurs équipes d'université du SEC l'an passé, puis en parlant de leur histoire également. Puis Louisiana State est une université qui est featured heavily dans cette série-là, puis ils ont vraiment l'air à croire que cette année, avec le retour quand même un peu unexpected de Nussmeier, que là, cette année, ça serait leur année.
Effectivement. LSU qui retrouve pas mal ses gros joueurs un peu partout. Les joueurs importants qui sont partis, Kyron Lacy, rest in peace, Mason Taylor, mais à part ça, sinon, Garrett Nussmeier revient, Kaden Durham revient, leur running back one, Aaron Anderson revient en défensive, les Wiggs Brothers reviennent avec le plus jeune qui rentre aussi cette année.
Ouais.
Fait que cette année, ça devrait être une grosse saison pour LSU. Un peu le même questionnement que j'ai eu tantôt avec Penn State puis Ohio State. Brian Kelly, pour moi, je sais pas, ça fait 2-3 saisons que ses défenses ont vraiment de la misère.
Comme jamais réglé le problème.
Fait que si sa défense ne se règle pas cette année, ben malheureusement, ça va falloir que Garrett Nussmeier va falloir qu'il mette un 45-50 points chaque semaine pour gagner. Je sais pas si c'est soutenable dans l'SEC. Fait que ça va être de voir si sa défense va tenir le coup, mais Brian Kelly reste un point d'interrogation encore pour moi.
Par la suite?
Si j'avais Notre-Dame.
Ouais.
Si j'avais Bama.
Ouais, Bama qui sont un petit peu. Non, on est habitué de les voir un peu plus dans le haut du classement cette année. Ouais. Eux autres aussi ont quasiment le brother from another mother que je dirais de Jeremiah Smith en Ryan Williams. Mm-hmm. C'était bien de mentionner que les deux en plus peuvent pas déclarer au draft après la saison. Hein.
Ouais, exactement.
Fait que il en reste encore potentiellement encore un autre année de plus. N'importe quoi. Fait que Alabama, ben c'est sûr qu'ils ont perdu leur carrière.
Ouais, mais je pense que Ty Simpson est peut-être un upgrade sur ce que Jalen Milroe était. C'est un senior, fait que c'est un gars qui a déjà vu quand même. Il a toujours joué à Alabama, fait que t'sais, ça va être comme sa vraie première saison comme starter. Mais je vois plus d'upside que j'en voyais avec Jalen Milroe, qui était pas un très bon passeur. Pour moi, Ty Simpson est un vraiment meilleur passeur. Sinon, si on regarde l'alignement du Crimson Tide, ben évidemment, Ryan Williams.
Ça va être le nom à regarder là-bas. Si vous le regardez Bama cette année, vous allez voir des highlights de lui, c'est sûr et certain.
Sinon, le running back de l'an dernier, Jam Miller, revient aussi. Mais il n'avait pas connu une très grosse saison. Fait que cette année, je m'attends à une meilleure saison. Jeremy Bernard aussi qui revient. Donc, ils ont deux très très bons receveurs. Un running back qui pourrait en donner plus par rapport à ce qu'il a donné l'an dernier. Ça devrait être une grosse année pour les Crimson Tide. Là. Je pense que cette année, ils devraient faire les playoffs. Là.
Les playoffs.
Ouais.
Alrighty. Ton côté, si on enchaîne avec la prochaine équipe.
Oui, j'avais LSU.
Ouais, dans le fond, tout ce qui a switché, c'est LSU puis Georgia. Fait qu'on peut parler de Georgia. Georgia qui perd son carrière de l'an dernier, qui est rendu avec les Hurricanes de Miami.
Carson!
Quel bon mot!
Donc, Carson Beck qui est rendu à Miami. Puis cette année, ça va être Gunnar Stockton, le carrière qui l'avait d'ailleurs remplacé au SEC Championship.
Qui s'était fait geler, qui avait deux yeux dans la graisse de bine, hein, le mime.
Mais avant de se faire geler, quand il est venu en relève à bon Carson moment. Beck, il était beaucoup plus confiant sur le terrain. Puis je trouvais qu'il jouait mieux que ce que Beck avait donné pendant toute l'année pour Georgia. Donc, je pense que là, c'est un upgrade. Puis,
si je me trompe pas, c'est lui qui avait starté la game contre Notre Dame en playoff. Hein?
Oui, c'était lui, ouais, parce que Beck était dans avait comme un attel. Là, fait que. Puis, il faut dire que Notre Dame a une grosse défense. Fait que c'était difficile de faire de quoi, mais je pense quand même que c'est un upgrade par rapport à ce qu'on avait avec Carson Beck. Puis ben Kirby Smart reste Kirby Smart. Donc, ouais, je m'attends que l'entraîneur-chef soit pas vraiment un facteur ici. Puis sinon, les défenses de Georgia, on sait ce que ça donne tout le temps. Donc, ça devrait être une belle saison. Je trouve qu'il manque peut-être un peu d'armes en attaque par rapport à ce qu'ils ont eu dans le passé. Mais reste que somme toute, je suis assez confiant que c'est une équipe de playoff.
Alright, alright. Ça fait drôle de quand même voir Georgia puis Alabama pas dans le top 3. Il me semble qu'on était habitué les dernières années qu'ils étaient toujours là, ces deux universités-là.
Ouais.
Crazy stuff. Donc là, on va commencer un peu plus à voir des variations là, sur.
Ouais, c'est un peu n'importe quoi à neuf. Hein. J'ai. Club qui revient le plus souvent, j'ai Oregon.
Ouais, j'ai Oregon aussi à neuf. Pour moi, ben là, évidemment, il fallait mettre le champion du Big 12 puis un autre champion. Donc. Ça me laissait trois spots pour Oregon, South Carolina, Miami, Illinois, puis quelle autre équipe j'avais? J'avais Nebraska. Fait que j'avais cinq équipes pour deux spots, mais à neuf, j'étais allé avec Oregon. Donc Oregon, ça va être de voir encore à chaque année, eux autres, mais ça me semble que c'est un changement de carrière parce qu'ils n'en forment pas des carrières. C'est toujours des gars qui vont chercher sur le portal. Cette année, c'est Dante Moore qui va être QB là. J'ai hâte de voir, je trouve que Dante Moore, c'est lui qui avait remplacé Darian Thompson Robinson quand il avait déclaré dans la NFL la saison suivante à UCLA. C'était lui qui avait pris les reins là-bas. Puis ça avait été vraiment une saison difficile. L'an passé, il n'a pratiquement pas joué. Puis finalement, cette saison, on décide de transférer. C'est définitivement, selon moi,
le question mark, peut-être?
Ouais, il n'y a pas d'upgrade là par rapport à ce qu'on a eu depuis deux ans avec Bo Nix puis Dylan Gabriel. Fait que ça, j'ai hâte de voir. Mais on sait que Dan Lanning fait un excellent boulot là-bas. Fait que je suis pas trop inquiet qu'ils vont sûrement sneak in, mais je m'attends quand même à ce que, par rapport à leur première position de l'an dernier, je les vois pas du tout là.
Ou pas autant un powerhouse.
Là. Ouais, puis tu sais... Je sais pas s'ils vont réussir à faire le Big 12 Championship, mais selon moi, on risque pas d'upgrade cette année à Oregon. Là.
Puis on a perdu quand même des weapons en attaque. Je pense à Tess Johnson, que j'avais beaucoup aimé l'an passé. Dan Gabriel, que tu en as parlé.
Ouais.
Je pense qu'il y avait un bon running back l'an passé aussi. Je sais pas si. Je suis pas certain s'il est de retour ou pas.
Ouais, ça. Je pourrais te le chercher là, mais.
Ben pendant ce temps-là, au pire. Mais ouais, j'avais bien apprécié ses performances en playoff l'an passé. Il me semble qu'il fidait à balle. Là. Il y avait la run heavy, qui avait joué, si je me rappelle bien.
J'ai plus le nom, mais oui, je me rappelle
parce que.
Mais non, je le vois pas dans le depth chart d'Oregon. Fait que probablement qu'il a déclaré pour le draft. Mais. Ouais, c'est une équipe, je pense, qui va perdre des plumes un peu cette année. Mais malgré tout, c'est une équipe qui est vraiment bien coachée. Fait que je m'attends quand même à des résultats. Là.
Excellent, excellent. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs d'or, plusieurs valeurs.
Ouais, moi, dixième, j'y vais avec le Big 12 champ en Arizona State. Là, le Big 12, je ne ferai pas de cachette, c'est pas la conférence que je suis le plus. Cependant, dans toute la conférence, le meilleur carrière, c'est Sam Levitt. Puis pour moi, dans une conférence comme ça, j'aime mieux bêter sur le meilleur carrière. Puis Sam Levitt va être un choix de première ronde cette année. Je m'attends à ce que Arizona State remporte la conférence. C'est sûr qu'on a perdu des joueurs. On fait juste penser à Cam Scalabou, évidemment. Mais je pense que, somme toute, avec la stabilité du corridor là-bas, ça devrait, devrait pas trop avoir de misère à gagner la conférence.
Des noms que je vois un peu revenir aussi de mon côté. Texas Tech. Je trouve ça...
Ouais, je les ai vus aussi. J'ai Kansas aussi qui pourrait peut-être faire un splash, mais pour moi, Arizona State, juste à cause du carrière, reste quand même le favori de ce côté-là. Là.
Alrighty. Là, on a plusieurs équipes qu'on pourrait parler. Là. Plusieurs équipes, je pense, là, vraiment. Alors, je vois Miami.
Ouais.
Qui sneak in. Toi, qu'est-ce que t'en penses de Miami? On a perdu Cam Ward.
Ouais, mais je pense que somme toute, c'était la meilleure destination pour Carson Beck. Il arrive dans une place où il sait qu'il va être QB1.
Où il n'y a plus de blonde.
ils ont perdu des plumes un peu. Si tu regardes par rapport à ce qu'il y avait l'an dernier, ils ont perdu évidemment leur tight end qui est rendu avec les Seahawks. Ont perdu aussi leur receveur Restrepo qui est rendu avec Tennessee. Mais je pense que Carson Beck qui rentre dans une équipe qui est assez bien rodée. Je crois que Miami peut avoir une bonne saison. Mais c'est pas eux que j'ai 11e. 11e, j'ai les Gamecocks de South Carolina.
Ah, c'est que j'aime les Gamecocks de South Carolina. Puis ça me permet de parler encore de la série SEC. Là, mais je suis tombé en amour avec les Gamecocks là, de South Carolina dans cette série-là. Ça faisait quand même quelques années que c'était plus difficile. Il y avait des carrières un peu douteuses. Spencer Rattler a joué là. Je pense qu'il était un bon QB. Mais là, on a trouvé un dog à la position de carrière.
Ouais. Puis tu regardes, l'an passé, South Carolina, c'était une équipe qui aurait dû faire les playoffs, honnêtement. Mm-hmm. Fait que toute l'année, ils ont eu une progression. Puis, c'est une équipe qui est très bien coachée avec Shane Beamer là-bas. Puis, si tu regardes en passé, c'est des défaites contre LSU qu'ils ont tenues jusqu'en prolongation. Ils vont battre Clemson. Ils ont battu A&M. Ils ont battu des gros clubs de football l'an passé. Puis finalement, je pense qu'ils ont fini 14e, donc juste assez pour pas rentrer. Mais avec un KL comme The Norris Sellers, je pense que c'est une équipe qui peut sneaker dans 11. Puis parmi toutes les équipes que je t'ai nommées, là, pour moi, c'est l'équipe qui a le meilleur KL dans ces 5 équipes-là, parce qu'on peut même racheter Oregon. Je prends le Norris Sellers bien avant Dante Moore. Fait que. Ouais, je pense que South Carolina, cette saison, vont sneaker.
Puis ils vont être cool à regarder. Sont excités à regarder, en tout cas. L'an passé, j'avais checké une coupe de game. Puis là, à plus, là, cette année, je vais avoir mes yeux sur South Carolina, sur les Gamecocks.
C'est ouais. Il y a l'air de. À Columbia, ça a l'air de bien aller là-bas, les affaires.
Et on clôt peut-être le top 12 avec l'équipe que tu veux le plus le parler, qui t'a à 12e.
J'ai Boise State parce que ça prenait un dernier champion de conférence. Exact. Puis là, j'ai regardé toutes les équipes qui pourraient potentiellement gagner leur conférence. Puis dans toutes ces équipes-là, selon moi, celle qui ressort le plus, c'est Boise State. Malgré que, bon, le Mountain West, je pense pas qu'il y a grand monde qui attache de l'importance à ça. En passant, c'est une équipe qu'on suivait surtout pour Ashton Gentry.
Exact.
Mais non, je suis avec Boise State, mais. Il y a bien des chances que je me trompe là-dessus aussi.
C'est bien. Ben, en tout cas, honnêtement, dans tout ce que je vois, qui est de. Il est partout en 12.
Ouais, je pense
C'est soit ça ou on a un peu de. Toledo. Mais tu sais, ça, c'est même pas les équipes du
Mountain West. Non, mais c'est des équipes qui jouent quand même dans le All-American. Fait que c'est des équipes qui pourraient gagner leur conférence aussi. Mais c'est ça, la dernière équipe qui rentre, c'est un peu une équipe, je pense, qui va être un punching bag. Comme là, mettons, si mes prédictions marchent comme
à 100%, là.
On aurait Boise State qui irait jouer à LSU. On aurait South Carolina qui se rendrait à Notre Dame. On aurait Arizona State qui irait à Tuscaloosa. Puis on aurait Oregon qui irait jouer à Athens, Georgia.
Oh, ouais, ça serait de la pépite. Ça serait de la pépite pour une première ronde, définitivement.
Les quatre qui auraient leur base seraient Clemson, Penn State, Texas, puis Ohio State.
T'as-tu une équipe Cendrillon potentiel, mettons, que t'aimes bien, que t'as pas mis dans ton top 12? Quelque chose, une équipe que tu dis, ouais, eux autres cette année, watch out. Je pense, mettons, je sais que A&M avait du momentum l'an passé.
Ouais.
Mais là, c'est sûr que dans les SEC, c'est toujours tough. Là.
Ouais. Ben, une équipe que. On va encore continuer à parler de carrière, là, mais une équipe que l'an passé, un carrière rentrant en plein milieu de saison. DJ Lagway avec les Gators de la Floride. Très bien coaché aussi avec Billy Napier.
On fait des crocs, excusez-moi, c'est pour ça qu'on rit.
La seule chose pour Florida, c'est justement qu'ils jouent dans le SEC. Donc, c'est une conférence qui est assez loadée. Là, mais avec un carrière comme DJ Lagway, je pense qu'il pourrait faire du bruit. Comme je te dis, peut-être pas rentrer en playoff. Là, je les vois peut-être plus sneaking dans le top 17-18. Mais c'est une équipe qui pourrait en fin de saison battre des équipes pour les fâcher. Tu sais, comme mettons. Je sais pas c'est quand, là, mais la game Florida contre Miami. Là. Ouais. Une game que Florida pourrait causer du trouble à Miami qui, essentiellement, pourrait éliminer leur chance de rentrer en playoff. Fait
qu'une autre équipe à regarder. Fait que là, Lagway, lui, première année comme starter. Fait que là, notamment, leur window s'ouvre peut-être pour l'année prochaine puis l'autre d'après. Moi qui
Il pourrait déclarer parce qu'il a redshirt sa première année. L'an passé, il a joué. Mais l'année redshirt, il la considère quand même comme une saison. C'est pour ça que là, ça va être son année sophomore, mais il pourrait déclarer à son année sophomore.
Fait que ça va dépendre vraiment de ce qui se passe cette année. Mais si, mettons, la Guive n'est pas revenue l'an prochain, il faudrait que Florida se construise un méchant club. S'il reste encore un an. Puis un peu comme. En tout cas, tu parles de Arch Manning, on en a parlé un peu tantôt, mais on a parlé de lui des dernières années comme le consensus first overall pick l'an prochain. Puis là, la tendance a comme un peu tourné, je pense, un peu avec le NIL money. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est que les joueurs de collégio maintenant peuvent faire une bonne mode de cash en jouant au college. Effectivement, c'est ce qui paraît. Arch Manning serait plus favorable à son retour à Texas pour une deuxième année comme starter l'an prochain.
C'est ce qui est difficile à voir pour lui, c'est que cette année, s'il connaît quand même une bonne saison, là, il n'y a pas de temps, je pense, besoin d'être extraordinaire, juste une très bonne saison, mettons un 3600, 3700, 35 à 40 touchdowns. Je pense qu'il pourrait sortir le premier au total. Tandis que l'an prochain, Ryan Williams, Jeremiah Smith, potentiellement DJ Lagway.
Norris Sellers pourrait déclarer cette année.
Comme l'an prochain. Fait que.
Ça va dépendre après la saison de où il se voit par rapport aux autres qui vont déclarer sûrement.
Là. Dans deux ans, ça va être une très grosse classe. C'est pour ça que ça va être à voir ce qu'il va faire.
Puis il va peut-être attendre de voir c'est quoi ses potentiels ou qui pourrait aller jouer. Si tu veux choisir un peu ta situation, puis tu as le luxe de le faire. Des fois, il y en a qui aiment ça un peu. Tu donnais des chances en commençant dans la NFL. Là. Je pense à Cam Ward, que lui, en tout cas, à Tennessee. Je sais qu'il y a des fans des Titans qui écoutent le podcast à cause du King. C'est ça. Je pense que il a le choix de mettre des chances de son bord. Il risque de le faire peut-être. Je pense que ça nous amène à regarder la première semaine d'activité. Comme je vous ai dit, ça commence bien. Ben, ça commence demain, officiellement. Puis week one, il y a des excellents match-up, honnêtement. Si on regarde jeudi soir, c'était peut-être un peu moins du lourd pour ce qui est des match-ups, mais on a quand même Boise State qu'on a parlé depuis le début, qui commence leur saison demain soir, donc intéressant.
Puis tu sais, Boise là, en comparatif, sont favoris de 5.5. Fait contre South Florida, qui n'est pas une très très grosse université. Donc ça prouve à quel point que, tu sais, mettons les Boise de l'an passé contre South Florida. Je pense qu'on tourne peut-être plus moins 10.5, moins 11. Là. Mais là, on est à moins 5.5. Fait que ça monte peut-être un petit peu.
La qualité de leur alignement comparé à l'année dernière.
C'est ça, exactement.
Puis sinon, les autres match-ups qui m'intéressent quand même, que je vois, il y a Nebraska à Cincinnati.
Ouais, ça pourrait être une bonne game.
Nebraska qui ont le carrière.
Dylan
Raiola. Patrick Mahomes 2.0. Puis en plus. La game de demain est à Arrowhead.
C'est vrai?
Ouais. Gaia Field at Arrowhead, Kansas City, Missouri.
Ça s'invente pas.
Ça, je pense pas que c'est une coïncidence. Il fait même son routine avant la game, il est même pareil comme Pat Mahomes. Le monde, ils disent que c'est rendu cringe. Mais lui, Raiola, mettons qu'on prend 30 secondes pour y parler, mais il me semble que c'était quand même un gros nom dans le college football.
Ouais.
On n'a pas parlé d'un gros QB tantôt. On pourrait s'attendre à une grosse saison de sa part, quand même?
Oui, on pourrait. La seule chose, il joue à tous les samedis contre des défenses du Big Ten. Fait que je pense que tu le mets dans le SEC et il se débrouille assez bien contre des défenses peut-être un petit peu moins fortes.
Ça part, là, moi.
Mais là, contre des défenses du Big Ten à toutes les semaines, je pense que c'est ça qui rend la tâche peut-être un petit peu plus ardue. Puis il faut dire que c'est pas une grosse université non plus du Big Ten. Fait qu'ils ont peut-être un petit peu de misère à l'épauler. Mais il serait dû là, pour une grosse saison. Là. L'an passé, on l'attendait. Puis finalement, on l'a attendu longtemps.
On n'a jamais venu.
Mais non, c'est un gars qu'on pourrait surveiller cette saison. Je vous dis pas, mettons, dans le Heisman Watch. Là, mais définitivement, un gars qui pourrait stepper up sa game cette saison.
Exact. On a aussi des games vendredi. Mais vendredi, honnêtement... Il y a moins de choses qui m'intéressent. Il y a une équipe ranked qui va jouer, qui est ranked de début de saison, là, mais Illinois qui est 12e qui va accueillir Wagner. Mm-hmm.
J'avais pas la game entre Georgia Tech puis Colorado.
Effectivement.
Ouais. L'an passé, Georgia Tech a quand même causé du trouble à une coupe d'équipe. Mm-hmm. Je me rappelle la dernière semaine quand ils se sont rendus en 4th, 5th overtime contre les Bulldogs.
Ouais.
C'était quand même crazy cette game-là. Fait que je pense que ça, demain, ça pourrait être une bonne game.
Puis Colorado, là, on les a vus dans la dernière saison avec des superstars, Travis Hunter, Sanders.
Ouais.
Puis là, Deion Sanders qui est toujours à la bord de l'équipe. On s'attend-tu à ce que ce soit une équipe du même calibre? Pas du tout, j'imagine.
Ils vont sûrement prendre un petit step back, mais surtout que leur carrière, c'est un freshman qui était le deuxième meilleur carrière de la QV l'an passé qui rentrait. La seule chose, c'est qu'évidemment, il n'y a pas l'expérience d'un Shador Sanders. Donc, peut-être qu'en début de saison, ça va être plus difficile un peu. Mais est-ce que les équipes de Deion sont généralement bien coachées? Là, fait que pas trop. Puis tu sais, dans le Big 12 aussi, donc conférence un petit peu plus facile.
Puis là, on arrive à samedi. Samedi, attachez vos tucs. La saison commence pour de vrai, mesdames et messieurs.
Ouais.
À midi. Le match-up, c'est n'importe quoi pour commencer la saison. Tu te dis que c'est une de ces deux équipes-là qui commence 0-1.
Ouais.
Texas at Ohio State. Texas qui est ranked number 1. Ohio State ranked number 3 à ce moment, la nation.
Puis le plus fou là-dedans, là, c'est que je suis en train de regarder les odds. Hein. Puis Ohio State, c'est favori. Fait que clairement qu'il y a de quoi que le comité a mal évalué parce que...
Tu te fais plus aux bookies qu'au comité. Ben oui.
Je pense que oui.
Ben oui. Vegas, ça va être comme dire.
Fait que Ohio State, le spread est à 2. Moi, ici, je sais pas vous, mais je pense que je l'aimerais pour un Texas plus 2.
Ouh. J'aime ça. Mais c'est sûrement qu'aussi Ohio State sont locaux.
Dans le chou, là. Ouais.
Locaux. Puis, tu sais, je regarde toutes les games, puis j'ai l'option d'acheter des tickets, là. Ticket as low as 267 US. Ça va brasser à Columbus samedi. Sinon, là, il y a vraiment des bons match-ups. On a Tennessee que tu as parlé un peu tantôt qui va accueillir Syracuse. Ben, il va accueillir.
Ouais, c'était à Atlanta.
Ouais. Puis après, ben, Bama contre l'équipe qu'on a discuté tantôt, Florida State.
Ouais.
Bama, ben, en tout cas, je devrais les mettre un 0-1 pour commencer. Là. Mais. Ça risque d'être un bon match-up, ça.
Ouais, je pense qu'ici, j'irais plus avec. Probablement Bama moins 13.5. Je pense qu'ils ont des choses à prouver en partant. Puis même, j'ai parlé que j'aime bien Tom Castellanos. Je pense pas que l'équipe est aussi pactée qu'il y a 2 ans. Puis, comme j'ai dit, le Bama a des choses à prouver. Fait que je m'attends à ce que les canons sortent en partant. Puis, Ryan Williams, je serais pas surpris qu'il y ait une très, très grosse game en partant. Parce que surtout que son homologue à Ohio State risque d'en connaître peut-être plus difficile un peu. Fait que Ryan Williams, qui voudrait peut-être partir sa saison, puis être le meilleur receveur entre les deux.
Mettre son pied à terre dans la conversation en partant.
Ouais, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de disrespect sur lui. Je vois beaucoup de monde qui disent que Jeremiah Smith est vraiment meilleur que Ryan Williams. Fait que j'ai l'impression, moi, qu'il va. Il devrait en connaître une grosse, là, je pense.
Alright. Puis sinon, l'autre match-up de la journée qui tombe dans l'œil, c'est à 7h30 le soir. En direct de Clemson qui accueille LSU pour commencer la saison. Ça va être malade.
Dans Death Valley, spread 3.5. Je trouve que le spread est quand même gros. Je crois que Clemson va gagner, mais LSU va cover. Mais je ne serais pas non plus surpris que LSU gagne. Mais si Clemson venait à l'échapper... peut-être que les aspirations de terminer premier,
ça pourrait déjà être dans...
viennent peut-être de tomber déjà à l'eau, parce que je regardais le schedule de Penn State puis d'Ohio State. Le Big Ten cette année est quand même assez faible par rapport au SEC. Quand on en parlait avant l'épisode, c'est une des très bonnes années dans le SEC pour les carrières. Fait que je pense que chaque game va être difficile à gagner. Mais si Clemson venait à échapper ça puis qu'Ohio State partait fort avec une victoire, je serais pas surpris que un Penn State ou un Ohio State en fin de saison termine avant Clemson.
Alright. Fait que ça va être vraiment les deux games sur lesquels je vais avoir des yeux personnellement samedi. Je vais être sur le terrain de golf à moitié, mais bon, entre le casino et le terrain de golf, on va regarder ça. Puis finalement, ben souvent dans la première semaine d'activité, la NCAA se gâte un peu en mettant les games le dimanche. En profiter qu'il n'y a pas d'NFL. Ouais. On a deux bonnes games dimanche qui arrivent. Virginia Tech à South Carolina qu'on a parlé pas mal tantôt. South Carolina, la line est à moins 7,5.
Ouais.
Virginia Tech, ils sont quand même historiquement une bonne.
Ouais, fight.
Ouais. Puis ouais. Si je me trompe pas, c'est l'université que le père à Shane a coaché puis a amené to greatness pendant tant d'années. Ouais. Fait que c'est le. D'après moi, c'est pas un hasard là non plus. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis si South Carolina, 7,5, trouves-tu que c'est gros un peu?
Ben, compte tenu que Virginia Tech, c'est une équipe effectivement habituellement qui fight. Mais je pense que si t'es South Carolina, tu veux mettre un statement en partant.
Que tu vas être dans le top 12 cette année et tu veux y rester.
Je pense que j'irai avec Gamecocks moins 7,5.
Puis après ça, la game en soirée, on a Miami qui va host Notre Dame au Hard Rock. Puis la line est Notre Dame moins 2,5, c'est ce que je vois de mon côté.
Ouais, c'est ce que j'ai aussi. J'irai avec Notre Dame moins 2,5.
Tu penses qu'ils vont.
Ouais, c'est assez facilement. Je pense que Notre Dame, c'est une équipe qui est bien coachée. Puis, je trouve qu'ils sont pas mal meilleurs à beaucoup de positions. Sauf peut-être carrière, là, que si Carson Beck se réveille, puis et le carrière qui est supposé être. Mais non, je pense que 2,5, j'irai avec moins 2,5 Notre Dame.
Yes. Puis on finit la première semaine d'activité avec un bon match-up. C'est pas deux équipes qui sont ranked, mais TCU à North Carolina, je pense que ça va être une bonne game aussi. Si jamais vous cherchez de quoi écouter.
La première game de Bill.
Exact. Oui, c'est vrai. On n'avait pas parlé de Bill encore.
Première game de Bill on national television. Fait que, ouais, ça, pour un petit lundi soir, je trouve que ça se prend bien.
Absolument.
Pour les cotes.
C'est ici au moins 3,5.
Ouais, c'est ça que je vois aussi. Ouais, je sais pas trop. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, Bill, honnêtement, à North Carolina.
Ouais, j'ai bien hâte de voir par contre. Je pense qu'on va l'écouter plus, moins pour le porte-monnaie, mais plus pour le vibe, cette game-là. Tout le monde a hâte de voir Bill avec son jacket bleu pâle. C'est le sideline, voir ce que ça va donner à North Carolina s'il y a encore du jus dans le bonhomme.
Ouais, il y a encore du jus dans le tank.
Alright. Fait qu'on va finir l'épisode aujourd'hui avec un petit segment top 5.
On y a-t-il avec
le
Heisman Watch peut-être?
Ouais, c'est ça. Okay. Ben, on va faire. Heisman Watch et 4. Puis après ça, on va faire un top 5 en vue du draft. Fait que Heisman Watch, pour ceux qui se rappellent, Heisman est remis au trophée pour le meilleur joueur dans la nation. Le joueur le plus utile?
Meilleur joueur
dans la nation, c'est comme ça qu'il dit.
Mais il me donne souvent ça à des carrières.
C'est sauf ça, ça ressemble. C'est comme l'équivalent du MVP NFL.
Ouais, sauf l'an passé qu'on a eu Travis Hunter, mais généralement, c'est le meilleur joueur de la
nation. Fait que là, dans ton top 4 pre-season, on a discuté probablement de certains de ces joueurs-là. T'en avais-tu fait un de ton bord aussi?
Le top 5,
c'est ça? Ouais. Ou un Heisman Watch. As-tu des gars sur ton Heisman Watch? Sinon, on va laisser M. Krutz commencer, puis on va voir si on est d'accord, si on veut garocher d'autres noms dans le pot au fur et à mesure.
Je vais laisser le goût parler.
Le goût!
Moi, en fait, je suis allé avec deux gars que je suis assez certain qu'ils vont se retrouver dans le top 4, puis deux autres gars qui ont assez des bonnes cotes, qui pourraient se retrouver là. Donc, mes deux premiers qui devraient être là si tout se passe bien, Kate Klubnik, puis Jeremiah Smith. Klubnik est à 10, Smith est à 11. Kate Klubnik, on en a parlé. Là, ouais. Tout le monde revient, ils ont probablement des meilleures équipes.
Pas mal la meilleure situation.
Fait que je m'attends forcément à ce qu'ils soient là, surtout si, exemple, Clemson termine dans le top 3. Pour Jeremiah Smith, ben, comme on l'a dit, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur cette saison dans NCAA. Donc, un peu à l'image d'un Ashton Gentry l'an passé, il devrait se trouver là. Ashton aussi était là. Sinon, mes deux sleepers, un sleeper qui est à 17 de cote, mais il y a des gars qui sont bien avant lui. Le Norris Sellers.
Le Norris!
Je pense que si South Carolina réussit à rentrer en playoff, il n'y a aucune chance qu'il ne soit pas dans le top 4.
C'est sûr.
Fait que à 17 de cote, si vous croyez que South Carolina peut rentrer, moi je pense qu'ils peuvent rentrer. Je pense que ça peut être un bon bet à mettre. Je vous dis pas qu'il va le gagner, mais à 17 de cote, si, si South Carolina commence comme on bas saison, ouais. Ben au pire, vous allez être capable de chercher un bon cash-out si ouais, vous voulez pas le rider jusqu'à la fin. Là.
Exact.
Puis mon dernier gars, j'ai Jeremiah Love de Notre Dame, le running back. Comme on en a parlé tantôt, là, c'est probablement le meilleur back de la nation cette année. Puis si Notre Dame veut avoir du succès, ça va passer par leur show seul. Fait que je m'attends une grosse saison de lui. Puis
sa
lui,
cote est intéressante en
tant que. Ouais, c'est ça, 29. Fait que si Notre Dame réussit à rentrer. Ben, si Notre Dame réussit, mettons, à se classer dans le top 10, je pense qu'il y a des très bonnes chances de se ramasser dans le top 4 du Heisman. Puis même si Notre Dame a une très bonne saison, pourrait faire du bruit. Là, un peu comme Ashton Gentry l'an passé. Mm-hmm. C'est pas le même type de running back. Là. Puis je pense pas qu'il va être meilleur que ce que Gentry était, mais ça va quand même se ressembler, j'ai l'impression.
Fait qu'aucun Arch Manning.
J'ai pas mis Arch parce que c'est le favori. Puis c'est sûr que si Texas finit dans le top 3, j'ai l'impression qu'il va être là. Mais c'est pour ça que je voulais mettre peut-être plus des sleepers. Là.
Je comprends.
Ouais. Mais c'est sûr que Arch est là.
Il y a trois autres QB qu'on pourrait parler, je pense.
Garrett Nuss.
Drew Aller à Penn State.
Drew Aller, même chose. Fait que ça, c'est des gars qui pourraient être là.
Tantôt, t'as parlé de Lagway. Si Lagway prend la plan Florida sur ses épaules, puis ouais. il fait du bruit cette année.
Puis tu sais, même aussi, on a parlé plus tôt, mais. Le comme de top 3 là, Ohio State, Alabama, Georgia, leurs 3 QB aussi.
Pour être là. Puis t'as parlé de Sam Levitt qui est quasiment juste un vet, là, mais tu sais, s'ils gagnent de plein fouet leur conférence, puis ils marchent sur tout le monde, ils pourraient peut-être avoir des considérations.
Ouais, exactement.
Ça, c'est des cotes. On est plus d'un cote intéressant d'un coup de circuit, là, mais bon. Puis je vois même le nom d'Avery Johnson qui ont joué déjà une game là, qui a vraiment bien fait en Irlande. C'est en Irlande, hein, la game, c'est ça. La classique, là.
Ouais.
Puis bon, Raiola, que je vois qu'on a parlé aussi. Une cote de 67, fait que ça y prendrait toute une saison pour avoir des considérations, mais bon.
Puis pour le fun, c'est défensif. Je ne me rappelle pas le dernier gars défensif l'a gagné, mais ben, on pourrait dire que ce serait Travis Hunter, mais un vrai joueur défensif, ça devrait être Woodson, je pense, mais Caleb Downs.
Caleb Downs n'est pas... je pense que c'est vraiment son position value qui tire par en
bas. Caleb Downs, cote de 176.
OK, ouais.
Ouais.
Ben, c'est le meilleur joueur défensif de l'NCAA. Est-ce que j'y crois pas vraiment, mais... une information que vous pouvez prendre en compte, là. Ça va être le meilleur choix défensif cette année.
Je pense que ça nous fait une bonne transition à justement faire notre top 5 draft pick pour l'an prochain, parce que là, oui, on considère pas tant pour l'Iceman les joueurs défensifs parfois, mais là, au niveau des top 5 raw talent pour l'an prochain, pour le draft, je pense que c'est là que Caleb Downs pourrait peut-être être un... C'est sûr que ça revient encore à ce que je viens de dire, mais son position value en tant que safety, c'est rare que tu vois des safeties qui sortent top 10
dans
la NFL, mais...
Je l'ai quand même dans mon top 5.
OK.
Ouais.
Fait qu'on va y aller avec ton top 5 parce que moi, ça m'intéresse vraiment. On voit que c'est quand même une bonne année de carrière. Mm-hmm. Pas mal plus que l'an passé. L'an passé, on a eu deux carrières qui sont sorties en première ronde.
Ouais.
Seulement, je pense qu'on s'attend vraiment à éclipser ce nombre-là cette année au draft. Là.
Ouais, moi, cette année, j'en vois... ben, mettons, je peux y nommer Klubnik, Allard, Nussmeier, Seller s'il déclare, Manning s'il déclare, Levitt. Je pense que c'est 6 gars que si ces 6 gars-là déclarent, ben là, il y en a qui n'ont pas le choix, là. Mais je pense que si ces 6-là sont là, c'est sûr qu'ils sortent en première ronde.
Alright. Puis dans ton top 5, si on conclut ça avec les deux autres joueurs qui nous manqueraient dans un instant, tu nous as dit 3 QB, me semble, sur ça?
Ben dans mon top 5, en fait, le premier, j'ai Garrett Nuss, si les Saints repochent premier. Parce que les Saints.
Ben, ça va être Saints, ça risque d'être Saints ou Browns ou Jets, en tout cas.
Et si les Saints repêchent premier, ils vont soit repêcher Garrett Nuss qui jouait dans leur cours.
Parce que les autres, en plus, c'est pas son père qui est aussi là-bas? Ou c'est un Nussmeier là aussi? C'est Doug Nussmeier, ouais.
Ok, ok.
Je sais pas c'est quoi la relation.
Cherche-nous ça, mon U.
Doug Nussmeier, mais il me semble que. Ouais. Je sais pas si c'est son père ou en tout cas. Saints Offensive Coordinator. À moins que je dis de la grosse bullshit et mes recherches sont vraiment mauvaises.
Ouais.
C'est le port
le port de North Meyer qui est aussi avec les Saints.
Ben, que... je sais qu'eux autres viennent de la Nouvelle-Orléans, les North Meyer.
C'est Nouvelle-Orléans, ils resteraient en Nouvelle-Orléans, ils règlent son poste comme le match made in heaven.
Mais en dire. Même temps, si le fils du Manning qui a...
C'est ça. Le premier Manning, pour ceux qui savent pas, c'est le père de Peyton, Eli... T'es encore arrière de renom Archie. Pour les Saints. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Archie, t'es pas mal le. Tu sais, Archie, puis après ça, t'aurais Arch.
Ouais, fait que c'est pour ça que je pense qu'ils vont y aller soit avec Arch, soit avec Nuss. Mais dans les deux cas, il y a une histoire avec les Saints. Fait que je pense que ça va être un no-brainer si Arch déclare. Mais là, moi, dans la situation que je l'ai, j'ai mis qu'il déclarait pas. Parce que j'ai quand même l'impression, moi, qu'il va retourner une saison de plus à Texas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Garrett Nuss premier. Deuxième, je suis avec Caleb Down. Ça encore là, si c'est Cleveland qui repêche deuxième, c'est pêche un gars dans leur cours.
C'est sûr qu'ils prennent.
Que Caleb Down, le DB de Ohio State. Troisième, tu dis que ça serait les Jets?
De ce que je vois de mon côté, les projections chez les Jets, mais on va s'entendre que ça pourrait être Jets, Raiders, okay. Panthers, peut-être même Dolphins, Indianapolis.
Ouais. Ben là, c'est sûr que tu sais, c'est difficile à voir. Tu sais, mettons Indianapolis, je pense qu'il irait clairement pour un corps ailleurs. Fait que peut-être un Drew Allard ou un Benoit Sellers.
Klubnik même.
Ou un Klubnik même. Mais selon moi, si je regarde pas le positioning value, je pense à un gars comme TJ Parker, le Edge de Clemson. Double digit sack l'an passé comme saison.
Quand tu parles de position value, les edge, ça vaut toujours cher, on le voit. Ouais. Dans mon mock draft que j'ai là devant les yeux, il sortirait à New England. Là.
Je pense pas qu'il. Ben là, encore, il reste son année cette année à jouer, mais je pense pas qu'il est au niveau d'Abdul Carter en termes de talent actuellement. Mais avec une autre année, peut-être qu'il pourrait se rapprocher de ce qu'on a vu l'an passé avec Abdul Carter.
J'ai un joueur qui m'intéresse sous les yeux. Peut-être que tu pourrais m'en parler plus, là, mais Jordan Tyson, Arizona State.
C'est
le receveur, ça? Ouais, receveur 6-2. On a dit que s'il était pair justement avec Sam Levitt, ça pourrait être. Peut-être un duo à regarder cette année. Là.
Ouais.
Mais comme le premier wide receiver, juste que j'aime ça parler de receveur un peu. C'est souvent les gars qui sont fantasy-wise productive first year.
Ouais. Mais ce qu'ils disent, c'est que ça devrait être peut-être une. Un peu, tu sais, l'an passé, ça n'a pas été une grosse année de receveur. Hein, fait qu'il voit certainement un upgrade cette année. Mais je pense vraiment que la grosse classe de receveur, là, ça va être surtout l'an prochain. Les équipes l'an prochain qui n'auront pas de receveur vont se battre pour tomber dans la cave puis repêcher un des deux talents.
C'est ça.
Ouais, mais je pense que, tu sais, l'an passé, ça n'a pas été une grosse classe. Je vois peut-être un receveur numéro un dans toute la gang là, qui serait... Ben peut-être deux parce qu'à Green Bay, Matthew Golden, il n'y a pas tant de compétition, mais à part Ted McMillan, je vois pas tant de receveur numéro un. Là.
Exact. Puis restez à l'affût parce qu'au prochain épisode du Tailgate Podcast, lundi, nous aurons certainement un petit segment sur les most impactful potential rookies. Week 1. Puis j'aime bien Matthew Golden, justement, avec les Packers, que tu dis.
Il n'y a pas beaucoup de compétition.
On vous garde ça pour lundi. Fait que ça fait pas mal de tour, je pense, des sujets qu'on voulait discuter avec vous dans ce premier épisode de la saison. Très heureux d'être de retour à l'antenne avec nos analystes habituels. Merci les gars d'avoir été avec nous aujourd'hui pour notre taillé de podcast. Ils vont être de retour certainement. U va être dans sa compote lundi pour ce qui est de la NFL. Et on a vraiment impatient d'entendre ses propos à ce niveau-là. Alors, on vous laisse sur une bonne soirée et on se dit à lundi. N'oubliez pas le lottery du Fantasy, le Terrier Podcast sera revealed en live sur Spotify, Apple Music,
dans
vos écouteurs, où vous voulez l'écouter. Bonne soirée tout le monde et à lundi.
Yeah.